Quand la loi et le devoir ne font qu'un sous la religion, nul n'est plus vraiment conscient. Alors, on est toujours un peu moins qu'un individu. Extrait de Muad'Dib, les 99 merveilles de l'univers, par la princesse Irulane. L'usine à épices des contrebandiers s'avançait à travers les dunes avec son aile portante et sa couronne d'ornithoptères bourdonnant, pareil à quelques reines insectes suivies de son cortège. Des alignements de rochers bas apparurent, semblables à des modèles réduits du bouclier. Dans la bulle de commande de l'usine, Gurney Halleck, penché en avant, réglait les lentilles à huile de ses jumelles pour observer le paysage. Au-delà des rochers, il distinguait une zone sombre qui pouvait correspondre à un gisement d'épices. Il donna l'ordre à un des ornis d'aller en reconnaissance. L'appareil battit des ailes pour accuser réception du message et quitta l'essaim pour piquer vers la tache de sable sombre qu'il survola à basse altitude, dardant ses détecteurs. Presque aussitôt, il abaissa ses ailes et accomplit un cercle, indiquant qu'il venait de repérer l'épice. Gurney abaissa ses jumelles. Les autres avaient dû également voir le signal. L'endroit lui semblait parfait. Les rochers les protégeaient. Bien sûr, ils étaient loin dans le désert et une embuscade était peu probable. Mais pourtant, il donna l'ordre à un appareil de survoler les rochers et envoya les autres en différents points autour de la zone repérée, pas trop haut cependant, pour échapper au détecteur Harkonnen à longue portée. Mais il ne pensait pas qu'il puisse rencontrer des patrouilles Harkonnen si loin dans le sud. Non, ce territoire était celui des Fremen. Gurney entreprit de vérifier ses armes, tout en maudissant encore une fois l'inutilité des boucliers. Il fallait éviter à tout prix d'attirer un ver. Il caressa la cicatrice sur sa mâchoire et décida, tout en observant le paysage, qu'il valait mieux envoyer des hommes à pied dans les rochers. L'inspection directe du terrain restait encore le moyen le plus sûr. Les Fremen et les Harkonnen étaient à couteau tiré, et l'on ne pouvait être trop prudent. C'étaient les Fremen qui préoccupaient Gurney. L'épice leur importait peu, mais ils se révélaient de vrais démons dès l'instant où l'on pénétrait sur un territoire qu'ils considéraient comme interdit. Et, depuis quelque temps, ils étaient diaboliquement rusés. C'était cela précisément qui troublait Gurney, la ruse et l'habileté au combat de ces indigènes. Il montrait une connaissance de la guerre qu'il avait encore rarement rencontrée, lui qui avait été formé par les meilleurs combattants de l'univers avant de participer à des batailles où seuls survivaient les plus forts. À nouveau, il examina le désert, se demandant d'où pouvait provenir son inquiétude grandissante. C'était peut-être cette tempête qu'ils avaient vue. Pourtant, elle était loin, de l'autre côté de la chaîne. Une tête apparut à ses côtés, celle du commandant de la chenille, un vieux pirate barbu et borgne, aux yeux bleuis par l'épice, aux dents d'une blancheur de lait.
« Le gisement a l'air riche, » dit-il. « Nous y allons ?»«
Allez jusqu'à la limite des rochers, » dit Gurney. « Laissez-moi débarquer avec mes hommes. » Vous pourrez ensuite rouler jusqu'au gisement. Il faut que nous jetions un coup d'œil par là.
Vu.
En cas d'ennui, sauvez l'usine. Nous fuirons avec les ornis. Le commandant salua.
Vu, chef.
Et il se retira. Une fois encore, Gurney explora l'horizon. Il ne devait pas rejeter la possibilité de la présence de Fremen. L'usine était loin dans leur territoire. Le caractère imprévisible et la dureté des Fremen ne laissaient pas de le contrarier. Et il y avait bien d'autres choses encore qui le contrariaient dans ce travail. Mais les gains étaient importants. Par exemple, ils ne pouvaient jamais autoriser les ornis à prendre de l'altitude. Et la radio devait garder un silence absolu. Tout cela ne faisait qu'ajouter à son inquiétude. La chenille vira et descendit vers le désert. Doucement, les bandes de roulement touchèrent le sable. Gurney ouvrit le dôme transparent et se débarrassa de son harnachement. À l'instant même où l'usine s'arrêtait, il fut dehors, claqua le dôme derrière lui et s'élança au-delà du périmètre de sécurité de la chenille, suivi des 5 hommes de sa garde personnelle qui venait de surgir de l'écoutille avant. Pendant ce temps, l'aile portante prenait de l'altitude et se mettait à tourner au-dessus de l'usine. L'énorme chenille se remit presque aussitôt en marche et s'éloigna des rochers en direction de la tache sombre du gisement d'épices. Un premier ornis, puis deux autres, gagnèrent le sol et dégorgèrent les hommes de Gurney avant de reprendre l'air. Gurney, dans son distil, étira ses muscles. Il abaissa son masque facial. En cet instant, la puissance de sa voix, les ordres qu'il devait lancer, comptaient plus que l'humidité qu'il allait perdre. Il s'élança entre les rochers, sondant le terrain sous ses pas, cailloux, sable, poids senteur d'épices dans l'air. Un site idéal pour une base de secours, se dit-il. Il serait peut-être avisé d'enterrer quelques provisions par ici. Il se tourna vers ses hommes. C'étaient de bons éléments, même les nouveaux qu'il n'avait pas eu le temps de mettre à l'épreuve. Des hommes de valeur. Il était inutile de leur dire constamment ce qu'il fallait faire. Aucun lâche parmi eux, aucun bouclier susceptible d'attirer un ver qui viendrait ruiner leur récolte d'épices. De l'endroit où il se trouvait, Gurney pouvait apercevoir la tache sombre du gisement à quelques 500 mètres de là. La chenille l'avait presque atteint. Les ornis de couverture maintenaient leur altitude et Gurney hocha la tête, satisfait avant de reprendre son escalade. À cet instant, la chaîne tout entière parut faire explosion. 12 traits de flamme jaillirent en rugissant vers les ornis et l'aile portante. Dans le même temps, un fracas métallique s'éleva dans la direction de la chenille et les rochers autour de Gurney furent pleins de guerriers encapuchonnés. Gurney eut le temps de penser « Par les cornes de la Grande Mère, ils utilisent des fusées. » Puis il y eut un homme devant lui, accroupi, le kris pointé. Deux autres se dressaient entre les rochers, à droite et à gauche. Seuls les yeux de l'homme étaient visibles, entre le capuchon et le voile couleur de sable. Mais son attitude, la façon dont il se tenait accroupi, était révélatrice. C'était un guerrier endurci et habile. Ses yeux entièrement bleus étaient ceux des Fremen du désert profond. Gurney porta la main à son propre couteau sans quitter des yeux le kris de son adversaire. S'ils utilisaient des fusées, ils devaient disposer d'autres armes à projectiles. Il fallait être d'une extrême prudence. Rien qu'au son qu'il percevait, Gurney savait que leur couverture aérienne avait été en partie détruite. Il percevait aussi des grognements, des bruits de lutte derrière lui. Le Fremen avait suivi le mouvement de sa main. « Laisse ton couteau dans son étui, Gurney, Alec, » dit-il. Gurney hésita. Même au travers du filtre du distil, cette voix avait des accents familiers. « Tu connais mon nom ?» dit-il. « Tu n'as nul besoin d'un couteau avec moi, Gurney, » dit le Fremen. Il se redressa et glissa son kris sous sa robe. « Dis à tes hommes de cesser leur résistance inutile. » Puis l'homme rejeta son capuchon en arrière et ôta son filtre. Gurney se figea. Il crut une seconde qu'il avait devant lui le fantôme du duc Leto Atréide. Puis il comprit, lentement. « Paul, » souffla-t-il. Puis plus fort. « Paul, est-ce vraiment toi ?»«
Ne crois-tu pas tes propres yeux ?» demanda Paul.
« Il disait que tu étais mort, » dit Gurney, et sa voix était rauque.
Il fit un pas en avant. « Dis à tes hommes de se rendre, » répéta Paul, en tendant la main vers le bas des rochers. À regret, Gurney se retourna. Il ne vit que quelques rares combattants. Les hommes du désert semblaient être de partout. La chenille s'était immobilisée, silencieuse. Des Fremen se tenaient debout sur la coque. Il n'y avait plus un seul orni dans le ciel.
« Cessez le combat !» lança Gurney.
Il prit son souffle et mit ses mains en porte-voix.
« Ici Gurney, Alec ! Cessez le combat !»
Lentement, les combattants se séparèrent. Des regards perplexes se tournèrent vers Gurney.
« Ce sont des amis !» lança-t-il.
« Drôle d'amis !» répondit une voix. « La moitié des nôtres ont été tués !»«
C'est une erreur ! N'y ajoutez pas encore !»
Gurney fit de nouveau face à Paul, et plongea son regard dans ses yeux bleus de Fremen. Il y avait un sourire sur les lèvres de Paul, mais son expression conservait une dureté qui rappela à Gurney le vieux duc, le grand-père de Paul. Puis il vit la peau tannée, le regard vigilant qui n'avait jamais été d'un Atréide.
Il disait que tu étais mort, répéta-t-il.
Et de les laisser croire, cela semble bien la meilleure des protections, dit Paul. Et Gurney comprit que ce serait la seule excuse qu'il entendrait jamais. Lui qui avait été abandonné à lui-même, lui qui avait cru son jeune duc mort, son jeune duc, son ami. Et il se demanda ce qui restait en lui du garçon à qui il avait enseigné l'art du combat. Paul fit un pas vers lui et vit son regard songeur.
Gurney.
Et ils furent dans les bras l'un de l'autre, se donnant de grandes bourrades dans le dos, éprouvant le contact réconfortant de leurs muscles.
Satané gamin! Satané gamin, répétait Gurney.
Gurney, vieux Gurney, disait Paul.
Puis ils se séparèrent, se regardèrent. Gurney respira profondément.
Ainsi c'est à cause de toi que les Fremen sont devenus si habiles à la bataille. J'aurais dû comprendre. Ils font des choses que je pourrais faire moi-même. Si seulement j'avais compris.
Il secoua la tête.
Si tu m'avais averti, mon garçon, rien n'aurait pu m'arrêter. Je serais arrivé en courant et...
Le regard de Paul l'interrompit. Un regard dur, calculateur. Il soupira.
Oui, bien sûr. Et certains se seraient demandé pourquoi Gurney Alec partait ainsi en courant. Et d'autres auraient fait plus que se poser des questions. Ils seraient venus chercher les réponses.
Paul acquiesça et regarda les Fremen autour d'eux. Les Fedaïkin avaient une expression de curiosité. Son regard revint à Gurney. D'avoir ainsi retrouvé le vieux maître d'armes l'emplissait de joie.
C'était comme un heureux présage, l'annonce d'un avenir où tout était bien.
Avec Gurney à mes côtés. Il regarda vers le bas des rochers au-delà des Fedaïkin, les hommes de Gurney.
Comment se comportent-ils, Gurney? Ce sont des contrebandiers. Ils vont là où le profit les appelle.
Notre aventure promet peu de profit, dit Paul. Il nota le geste subtil de la main droite de Gurney. Dans le vieux code manuel qu'ils utilisaient tous deux autrefois, cela signifiait que parmi les contrebandiers, il y avait certains hommes dont il devait se méfier. Il porta la main à sa bouche pour indiquer qu'il avait compris et leva les yeux vers les Fremen. Il aperçut alors Stilgar et le souvenir de ce problème encore en suspens vint ternir quelque peu sa joie.
Stilgar, dit-il, voici Gurney Alec dont tu m'as entendu parler. C'est un vieil ami. Il était le maître d'armes de mon père et m'enseignait le combat. On peut se fier à lui dans n'importe quelle aventure.
Je comprends, dit Stilgar. Tu es son duc.
Paul contempla le sombre visage et se demanda pour quelle raison Stilgar avait dit précisément cela.
Son duc.
Il avait eu une intonation étrange, comme s'il eût voulu dire autre chose. Et cela ne lui ressemblait pas.
Stilgar était un chef Fremen, un homme qui parlait avec son esprit.
Mon duc, pensa Gurney. Il regarda Paul.
Oui, Leto est mort et le titre lui revient désormais. Dans son esprit, la carte de la guerre Fremen sur Arrakis prit une forme nouvelle.
Mon duc.
Tout au fond de lui, quelque chose de mort revenait à la vie. C'est à peine s'il avait conscience de la voix de Paul qui ordonnait que les contrebandiers soient désarmés jusqu'à leur interrogatoire. Il ne revint à la réalité que lorsqu'il perçut quelques protestations parmi ses hommes. Il secoua la tête et se retourna.
« Êtes-vous sourd ? »
lança-t-il.
« C'est le duc légitime d'Arrakis qui ordonne. Faites ce qu'il dit !»
En grommelant, ils obéirent. Paul se rapprocha de Gurney et dit à voix basse,
« Je ne me serais pas attendu à ce que tu tombes dans ce piège, Gurney. Je suis bien puni, mais je suis prêt à parier que l'épaisseur du gisement d'épices dépasse à peine celle d'un grain de sable. C'était là juste un appât capable de nous attirer.
« Tu gagnerais ton pari, » dit Paul. Il regarda les hommes qui rendaient leurs armes.
« Y a-t-il des hommes de mon père parmi eux ? »
Aucun. Tous sont dispersés. Quelques-uns sont avec les libres marchands, mais la plupart ont dépensé tous leurs biens pour fuir ce monde. Mais tu es demeuré, toi.
Je suis demeuré.
Parce que Rabban est ici. Je pensais qu'il ne me restait rien d'autre que la vengeance, dit Gurney. Un cri étrangement bref vint des hauteurs. Gurney leva les yeux et vit un Fremen qui agitait un mouchoir.
Un ver arrive, dit Paul.
Suivi de Gurney, il gagna un rocher et regarda dans la direction du sud-ouest. À mi-distance, le monticule mouvant d'un ver approchait dans un jaillissement de poussière. Il venait droit sur les rochers.
Il est assez gros, dit Paul.
Dans un fracas métallique, la chenille s'ébranla et, comme un énorme insecte, revint vers les rochers.
Quel dommage que nous n'ayons pu épargner le portant, dit Paul.
Gurney le regarda, puis ses yeux se portèrent sur les débris fumants qui étaient tout ce qui subsistait de l'aile et des ornilles abattues par les fusées Fremen. Il fut soudain envahi par le chagrin en songeant à tous les hommes qui étaient morts, là, ces hommes. Et il dit
« Votre père aurait plutôt pleuré les hommes qu'il n'avait pu sauver. »
Paul lui jeta un regard pénétrant, puis baissa les yeux.
« Ils étaient tes amis, Gurney. Je te comprends.
Pour nous, cependant, ils étaient des intrus. Ils pouvaient voir des choses qui leur étaient interdites de voir. Tu dois comprendre cela. »
« Je pense que je le comprends, » dit Gurney. Mais à présent, je serais curieux de voir ce que je ne devais pas voir.
Paul reconnut tout à coup ce sourire de vieux loup qu'il connaissait si bien, et il vit se plisser l'ancienne cicatrice de vinancre sur la mâchoire de Gurney. De tous côtés, maintenant, les Fremen poursuivaient leur tâche, et Gurney prit conscience qu'il ne semblait pas du tout s'inquiéter de l'approche du ver. Dans les dunes, au-delà du gisement d'épices, un battement sourd se fit entendre, et dans le même temps, Gurney en perçut les vibrations dans le sol. Des Fremen se dispersaient dans le sable, là-bas, sur le chemin du ver. Et le ver était tout proche, maintenant. Pareil à quelques poissons frôlant la surface de sable liquide, ses anneaux ondoyants et brillant au-devant du sillage de poussière. Et Gurney assista à sa capture. Il vit le mouvement du premier lanceur d'hameçon, le pivotement brusque de la créature, et puis tous les hommes qui se lançaient à l'assaut de la mouvante colline d'écailles.
« Voilà une chose que tu n'aurais pas dû voir, » dit Paul.
« Des histoires et des rumeurs circulent, » dit Gurney. « Mais on a du mal à croire cela sans l'avoir vu. » Il secoua la tête. « Vous traitez comme un animal de monte cette créature que tout Arrakis redoute. »
« Tu as entendu mon père parler du pouvoir du désert ?»«
Le voici. » La surface de la planète nous appartient. Il n'est nulle créature, nulle tempête qui puisse nous arrêter.
Nous, songea Gurney.
Il veut dire nous, les Fremen. Il se considère comme l'un d'eux. À nouveau, il regarda les yeux bleus de Paul. Il savait que les siens aussi avaient un reflet bleu léger, comme tous ceux des contrebandiers qui, cependant, absorbaient aussi des aliments d'importation. Cela était à l'origine d'un subtil système de caste. Lorsqu'un homme devenait trop semblable aux indigènes, on disait qu'il avait pris un coup d'épice. Il y avait toujours un certain mépris dans cette expression.
Il fut un temps où nous ne chevauchions pas le ver dans la clarté du jour sous ces latitudes, dit Paul.
Mais Rabban ne dispose plus d'un nombre suffisant d'ornies pour se permettre de surveiller le moindre sillage de sable. Il regarda Gurney.
La présence ici nous a surpris.
Nous.
Gurney secoua la tête pour chasser ses pensées.
Vous n'avez pas été aussi surpris que nous.
Que dit Rabban dans les creux et les villages?
Que les villages des Sillons sont fortifiés à un point tel que vous n'oserez plus les attaquer. Ils n'ont qu'à demeurer tranquillement derrière leur ligne de défense pendant que vous vous perdrez en attaque futile.
En résumé, dit Paul. Ils sont immobilisés.
Alors que vous pouvez vous rendre où vous le désirez, dit Gurney.
C'est une tactique que je tiens de toi. Ils ont perdu l'initiative, ce qui signifie qu'ils ont perdu la guerre. Gurney eut un sourire de compréhension. Notre ennemi, reprit Paul,
est exactement là où je désire qu'il soit. » Il regarda Gurney et demanda « Eh bien, Gurney, veux-tu t'enrôler avec moi pour la fin de cette campagne ?»«
M'enrôler ?
Mais, monseigneur, je n'ai jamais quitté votre service. Vous êtes tout ce qui me reste, alors que je vous croyais mort. J'étais seul et j'ai survécu comme je le pouvais, en attendant de donner ma vie pour la seule cause qui restait valable, la mort de Rabanne. »
Il y eut un silence embarrassé entre eux. Une silhouette féminine apparut au-dessus d'eux, entre les rochers. Ses yeux, entre le masque de son visage et le capuchon, allaient de Paul à son interlocuteur, sans cesse. Elle s'approcha et s'arrêta devant Paul.
« Shiny, voici Gurney Alec, » dit Paul. « Tu m'as entendu parler de lui. »«
Oui, j'ai entendu parler de lui, » dit-elle.
Et elle jeta un coup d'œil à Alec avant de regarder à nouveau Paul.
« Où sont allés les hommes ? Sur le faiseur ? » ?»«
Ils ne font que l'éloigner pour nous permettre de sauver le matériel. » »«
En ce cas, » dit Paul.
Il s'interrompit et huma le vent.
« Le vent approche, »
dit Shiny.
Quelque part au-dessus d'eux, une voix lança.
« Oh ! Le vent !»
Gurney vit que les Fremen se hâtaient tout à coup. Leurs gestes devenaient frénétiques. L'approche du vent faisait naître une crainte que n'avait pas suscité le ver géant. La chenille gagna en cahotant les premiers rochers, et les hommes se mirent à lui frayer un chemin. Ils replaçaient ensuite les rochers, et Gurney lui-même n'aurait pu être certain de relever la trace du passage de l'engin.
« Avez-vous beaucoup de repères semblables ? » demanda-t-il.
« Beaucoup, » dit Paul.
Il regarda Shiny.
« Trouve-moi Corba. Dis-lui que Gurney m'a averti que nous devions nous méfier de certains des hommes des contrebandiers. »
Elle regarda rapidement Gurney, puis elle acquiesça et courut vers le bas des rochers avec la grâce et l'agilité d'une gazelle.
« C'est votre compagne ? » dit Gurney.
« La mère de mon premier enfant, » dit Paul.
« Les Atreides ont un nouveau Leto. »
Gurney se contenta de hausser les sourcils. Paul observait les opérations autour d'eux d'un œil critique. Le ciel prenait une teinte ocre à présent, et les premiers souffles de vent leur apportaient la poussière du désert.
« Ferme bien ton distille, » dit Paul. Il ajustait le masque et le capuchon sur son visage. Gurney obéit. D'une voix étouffée par le filtre, Paul demanda « Quels sont les hommes dont tu te méfies, Gurney ?»«
Il y a quelques nouvelles recrues. Des étrangers. »
Il hésita, surpris que le terme fût venu aussi facilement sous sa langue. « Des étrangers. »
« Oui. » « Ils ne ressemblent pas aux autres, aux chasseurs de fortune que nous avions précédemment. Ils sont plus durs. »«
Des espions d'Harkonnen ?» demanda Paul.
« Je crois, monseigneur, qu'ils n'ont rien à voir avec les Harkonnen. Je les soupçonne d'être au service de l'empereur. Saloussa Secundus a laissé son empreinte sur eux.
Les Sardaukars ? »
Le regard de Paul était dur.
Gurney haussa les épaules.
« C'est possible, mais ils le cacheraient bien en ce cas. »
Paul acquiesça. Gurney était bien vite revenu à ses habitudes de loyal défenseur des Atreides, mais avec des différences subtiles. Lui aussi avait été transformé par Arrakis. Deux Fremen venaient vers eux. L'un d'eux portait sur l'épaule un volumineux paquet noir.
« Où sont mes hommes, maintenant ?» demanda Gurney.
« Dans les rochers, en dessous. Dans la grotte des oiseaux. Nous déciderons de ce qu'il convient de faire à leur sujet après la tempête. »«
Mouad Dib !» appela une voix.
Paul se retourna et d'un geste, répondit aux gardes Fremen qui les appelaient depuis l'entrée de la grotte.
Gurney le regardait avec une expression nouvelle.
« C'est toi, Mouad Dib ?» dit-il. « Le feu follet des sables ?»«
C'est mon nom de Fremen. »
Gurney se détourna, soudain envahi d'un sombre pressentiment. La moitié de ses hommes gisait dans le sable. L'autre moitié était prisonnière. Les nouveaux, les hommes suspects, ne lui importaient guère. Mais parmi les autres, il y avait des hommes braves, des amis, des gens dont il se sentait responsable. « Nous déciderons ce qu'il convient de faire à leur sujet après la tempête. » C'est ce qu'avait dit Paul, ce qu'avait dit Mouad Dib. et Gurney se souvenait des histoires qui circulaient à propos de Muad Dib, le Lichan al-Raib. On disait qu'il s'était servi de la peau d'un officier Harkonnen pour revêtir ses tambours, qu'il ne se déplaçait qu'avec ses commandos de la mort, les Fedaikin, qui se ruaient au combat avec un chant de mort.
Lui